belle journée à l'écoute d'Europe 1, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. À la veille de la mobilisation des Gilets jaunes, qu'est-il possible de faire pour que notre facture baisse quand on passe à la pompe? Covoiturage et nouveaux carburants, ce sont des options qui marchent déjà et elles sont françaises. Elle met du thé dans vos tasses depuis 1692. Trois générations que la famille Jumeau-Lafont est à la tête de Daman Frères. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis la garde alternée est souvent un casse-tête pour les parents. Vous qui êtes séparés ou divorcés, une société vous aide. Elle s'appelle Côte et c'est la solution du jour. C'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous le savez, vous connaissez le numéro du standard d'Europe 1. Comme chaque jour, on vous attend. Venez nous dire comment vous faites, vous, pour que la facture, quand vous faites le plein, ne soit pas trop élevée, Anissa.
Oui, venez nous donner toutes vos astuces pour réduire votre consommation d'essence au quotidien. 3921, c'est le standard, en effet, 50 centimes la minute. Et puis, on vous lit également sur Twitter. Il y a déjà des astuces qui ont été publiées. On va les lire dans un instant. Hashtag Europe 1 pour Twitter.
Et oui, parce que demain, vous le savez tous, ce sera la mobilisation des Gilets jaunes. Alors, on a décidé de s'intéresser, nous ici, à Europe 1, aux alternatives à l'essence et au diesel. Et vous allez voir qu'on a de la ressource. Pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach du jour, Augustin Paluel-Marmont, troublion chef chez Michel et Augustin, bonjour.
Bonjour.
Alors demain, vous savez qu'il y a une grande mobilisation nationale qui s'annonce sur nos routes, organisée un petit peu partout par les Gilets jaunes contre la hausse des prix du carburant. Alors on s'est dit qu'il fallait aller regarder d'un peu plus près comment la facture pouvait baisser et à plus long terme, ce qui pouvait tout simplement remplacer l'essence ou le diesel. Et évidemment, on a trouvé. Bonjour Julien Honard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Klaxit. Vous vous êtes lancé il y a 4 ans et vous faites du covoiturage domicile-travail. Ça fait un moment hein, que vous êtes passionné par le monde automobile. Vous étiez étudiant et déjà c'était votre truc.
Oui, on avait créé un petit boîtier en fait qui se connectait à la voiture, qui détectait vos trajets réguliers et vous proposait des personnes pour déjà partager vos frais de trajet.
Oui, alors vous avez d'abord lancé Waze Up.
Oui.
Aujourd'hui Klaxit. C'est une expérience, je crois, dans la Silicon Valley qui vous a vraiment donné le déclic.
Oui, tout à fait. J'étais en stage là-bas et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde à San Francisco avait un smartphone, ce qui n'était pas du tout encore le cas en France ni à Paris. Et donc finalement, notre petit boîtier est devenu une application mobile qui vous permet aujourd'hui sur votre smartphone d'aller facilement au travail et d'en revenir en partageant vos frais et en covoiturant.
Alors, votre idée, elle est simple, c'est d'aller voir les entreprises pour qu'elles proposent des solutions directement à leurs salariés. Et vous faites la même chose d'ailleurs avec les collectivités locales.
Oui, en fait, Klaxit, c'est une application que tout le monde peut télécharger, tout le monde peut s'en servir et covoiturer. Par contre, on peut aussi faire des partenariats avec votre entreprise pour que vous ayez plus de possibilités de covoiturage et des garanties en plus, notamment le fait de pouvoir rentrer chez vous en Uber et gratuitement si jamais votre conducteur annule. Donc, on rajoute des services comme ça sur l'application pour que vraiment il soit très simple de covoiturer et que le covoiturage devienne finalement plus fiable que votre propre voiture et que vous puissiez in fine l'abandonner.
Elisabeth, c'est vrai que l'autopartage, c'est quelque chose qui monte vraiment en puissance aujourd'hui. Hein.
Complètement. L'autopartage, bon, c'est une entreprise, mais ça peut être aussi des collectivités, on vient de le dire. Hein. Elles mettent à la disposition des employés ou des clients des voitures. Beaucoup d'entreprises se sont créées sur ce créneau. Vous avez Cities, vous connaissez peut-être, oui, ça existe depuis 2016. Ils le disent, hein, il y a 3 ans, 30% des clients étaient des entreprises. Aujourd'hui, 40% des entreprises s'intéressent à l'autopartage. C'est une solution.
Que dit notre coach adepte du vélo, notamment ?
Du vélo, effectivement. Je me suis mis au vélo là, depuis le 1er septembre, mais c'est vrai que ce qui est ahurissant, moi je fais un tout petit peu de voiture maintenant le matin pour déposer 4 enfants et je le fais parce qu'il y en a 4 dans la voiture et c'est vrai qu'on voit le nombre de voitures où il n'y a qu'une personne, ce qui est totalement surréaliste. Et moi ce que tu fais c'est exceptionnel avec la difficulté, parce que dès qu'on dit aujourd'hui covoiturage, évidemment on pense tout de suite au leader du marché qui n'est pas sur le même segment que toi mais qui évidemment Blablacar et qui a des moyens absolument considérables pour partir à la conquête de la planète. Donc moi tout ce que je peux te dire c'est que j'ai l'impression que c'est génial, ça correspond à un énorme énorme besoin. Ça va être, c'est l'avenir, mais il faut, à mon avis, aussi passer la seconde. C'est-à-dire que là, je voyais que tu avais levé quelques millions d'euros, mais BlaBlaCar, c'est des centaines de millions d'euros. Donc moi, j'encourage vraiment à te dire que pour toi, ton marché naturel, c'est pas la France, c'est l'Europe. Demain, c'est le monde. Et donc, de clairement accélérer.
Alors justement, Julien, vous êtes en train d'essayer de concurrencer BlaBlaCar. On le salue d'ailleurs, parce que Fred Mazella, c'est un de nos coachs ici. Comment est-ce que vous faites pour... Il y a de la place finalement aujourd'hui pour tout le monde sur ce marché-là, oui, parce que vous n'avez pas exactement les mêmes services.
BlaBlaCar fait surtout de la longue distance.
Du long trajet.
Voilà, nous, on est sur le domicile-travail. Et sur le domicile-travail, vous avez plus de 10 millions d'actifs qui, tous les jours, vont à un lieu de travail fixe et en reviennent, et en grande majorité, tout seuls dans leur voiture. Donc en fait, le marché domicile-travail français est plus gros que le marché de BlaBlaCar longue distance mondial. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire en France et on accélère pas seulement avec des levées de fonds. Dans quelques semaines, on sera intégré dans l'application de la RATP. Donc vous verrez votre bus, votre RER et aussi les offres de covoiturage en klaxit.
Et puis vous proposez d'offrir des frais de gestion, je crois, aujourd'hui, et de proposer au gouvernement aussi de doubler l'aide mensuelle de 20 à 40 euros pour les covoitureurs. Ça, c'est une actu, hein. C'est tout récent.
Oui.
C'est justement avec tout ce qui se passe en ce moment.
Suite à la hausse des carburants, on a décidé de mener trois actions. La première, c'est que on prélève des frais de gestion sur notre plateforme quand le passager paye le conducteur d'environ 20%. On les offre jusqu'à la fin de l'année pour justement permettre une transition aux automobilistes. On a également plusieurs offres en cours, notamment en Ile-de-France, à Clermont-Ferrand, dans les Alpes-Maritimes, où tous les trajets sont à 1 euro. Donc le passager va payer 1 euro, mais lui, le conducteur, va recevoir beaucoup plus. Un conducteur aujourd'hui qui habite à 30 km de son travail, sa voiture lui coûte, en comptant carburant, entretien, dépréciation, 480 euros par mois. Donc c'est énorme. S'il covoiture régulièrement avec une personne, il va faire moins 25%, 360 euros. S'il covoiture avec deux personnes, là il divise ses frais par deux, 240 euros. Et son passager, lui, va voyager à moindre coût grâce à des partenariats qu'on a fait avec les collectivités.
Ouais, là l'argument financier, il est évident. Le mouvement, depuis qu'il est lancé, dites-moi, il grossit évidemment. Vous avez combien de personnes qui font du covoiturage aujourd'hui avec vous ?
Alors aujourd'hui, on propose en France plus de 320 000 trajets partout en France. Et là où ça covoiture le plus, c'est là où on a densifié. Donc on a des entreprises partenaires qui font que, en fait, sur votre trajet, vous avez beaucoup de personnes qui le partagent. Et y compris quand vous finissez pas tous les jours à la même heure, vous pouvez retrouver quelqu'un de pertinent sur l'application.
Elisabeth, il y a le covoiturage, il y a aussi la location de voiture,
même à
plusieurs.
La location de voiture à plusieurs. Vous avez par exemple l'entreprise DriveMe, on en avait parlé.
Oui.
Dans la France bouge en solution. DriveMe, eux, leur principe, c'est qu'ils ont les loueurs de voitures doivent effectuer des trajets d'un trajet A à un trajet B pour remettre la voiture au parking. Et alors, dans ces cas-là, ils proposent aux consommateurs, pour un euro, de prendre cette voiture et d'effectuer le trajet. Ça nous rend service et ça leur rend service et ça fait faire des économies.
Et oui, et puis ça remplit le véhicule plutôt que de rouler à vide avec simplement le conducteur. C'est vrai que c'est assez intelligent. Que dit le coach ?
Non, mais c'est vrai, quand on connaît les stats, le taux d'utilisation d'une voiture, c'est quelques pourcents. Quand les avions sont à plus de 90%, c'est que c'est une aberration. On a beaucoup trop de voitures. Et tiens, ce que je trouve passionnant dans tous ces sujets de consommation, c'est qu'il y a un moment, ce qui paraît très visionnaire devient une évidence absolue. Moi, Fred, quand il parle de BlaBlaCar, c'est pendant les grandes grèves qu'il y a eu un moment des déclics pour le consommateur. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Donc il faut tenir.
Fred Mazella, évidemment.
Mazella, et il faut tenir. Il faut avoir les moyens de tenir, d'être ambitieux. Et c'est clair que ce qui paraît encore aujourd'hui un peu précurseur, demain sera une absolue évidence. On se demande même comment on aurait fait avant.
Oui, on parlait justement des avions. Il y a Hélène Erabédian qui nous dit sur Twitter avec le hashtag Europe 1, et personne ne parle des paquebots de croisière et des avions qui consomment du kérosène bien plus que nos petites bagnoles diesel pour aller à 5 km faire nos courses. C'est vrai qu'elle a raison, il va falloir y penser aussi. On reste ensemble, on continue à regarder comment réduire sa consommation d'essence ensemble sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Alors, partager sa voiture, c'est évidemment une des solutions, mais à terme, que mettra-t-on dans nos réservoirs ? Peut-être bien du GNV. Vous ne connaissez pas ? On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec tous les jours des idées, des grandes solutions. Aujourd'hui, comment diminuer sa consommation d'essence et l'usage de sa voiture ? Vous êtes déjà nombreux à partager vos astuces sur Twitter. Continuez, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous donner vos bons plans au 3921. C'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
La voiture essence ou diesel va-t-elle entrer dans 10, 20 ou 30 ans au musée de l'auto? On n'en est pas là, c'est sûr, mais les systèmes alternatifs sont en plein développement et certains ont déjà le vent en poupe chez nos voisins, en Italie, en Allemagne notamment. Bonjour Serge Lamouille, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur commercial de Proviridis. Vous êtes basé à Rousset. Rousset, c'est juste à côté de Marseille. Et alors, vous fournissez plusieurs carburants alternatifs. Vous installez notamment des stations électriques, hydrogène. Et c'est aussi, et c'est ça qui a attiré notre attention tout particulièrement, au GNV, le gaz naturel de ville. Comment ça marche et quel est son intérêt?
Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation. Oui, Proviridis est spécialisé dans la fourniture de carburants alternatifs, vous l'avez bien résumé, en misant sur des stations multi-énergie qui vont délivrer dans le futur à la fois du GNV, qui est le gaz naturel pour véhicules, il faut le préciser, mais aussi donc des bornes de recharge électrique et l'hydrogène. Ces trois carburants, qui sont des carburants du futur, vont cohabiter. On appelle ça le mix énergétique. Et même dans le mix énergétique, demain, il y aura encore de toute façon du diesel et de l'essence qui vont perdurer. Mais aujourd'hui, il est vrai que plusieurs étapes. Et dans ces plusieurs étapes, nous avons aujourd'hui une énergie qui s'appelle le GNV, qui est crédible, qui est accessible, qui est économiquement intéressante pour le tout au chacun. Et que nous fournissons principalement sur nos stations aujourd'hui.
Alors, combien de stations installées, notamment dans le sud de la France d'ailleurs, et à Monaco, en Italie aussi?
Alors, nous avons démarré par mailler le territoire du sud de la France. Effectivement, nous avons trois stations aujourd'hui GNV qui sont opérationnelles, deux dans le sud de la France et une dans la région lyonnaise. Mais avec un carnet de commandes et des perspectives sur 2019 qui sont importantes, avec une dizaine de stations supplémentaires dites publiques et des stations qui sont dites privatives pour des besoins de flotte captives, type bus, car, autocar, qui ont besoin d'avoir des stations de gaz naturel chez eux.
Donc ça veut dire que j'arrive avec ma voiture, je veux faire le plein aujourd'hui avec du GNV, je peux le faire.
Exactement.
Je ne change rien, je remplace l'essence par le GNV.
Exactement, il faut que vous procuriez une voiture GNV, alors s'il existe aujourd'hui, alors malheureusement moins chez les constructeurs français, mais beaucoup chez les constructeurs allemands.
Audi, par exemple.
Audi, Volkswagen, Fiat, même Opel, fournit donc des véhicules Skoda, Seat. Ce sont des véhicules que vous achetez et surtout l'intérêt sont des véhicules qui ne coûtent pas plus cher aujourd'hui qu'un véhicule essence. Que le même véhicule essence. Donc ça, c'est très intéressant. Contrairement à l'électrique, aujourd'hui, vous allez payer quand même 25-30% plus cher. La voiture GNV coûte à l'identique.
Et si j'ai une voiture qui roule à l'essence aujourd'hui et que je veux mettre du GNV, est-ce que j'ai la possibilité de mettre un système d'adaptation dessus?
Non, il faut que vous achetiez directement un véhicule GNV. Voilà, mais ils sont accessibles. Ce sont des véhicules qui sont accessibles. Et j'insiste beaucoup sur le caractère aussi économique. Et je vais donner une anecdote. En fin de compte, je prends une petite citadine comme une Fiat Panda. Une Fiat Panda, c'est utilisé principalement en milieu urbain, voire intra-urbain. Si je prends une Fiat Panda GNV, elles sont équipées d'un petit réservoir de 15 kilos. De GNV, vous allez payer 15 euros, puisque on vend aujourd'hui le GNV à 1 euro du kilo, qui est équivalent à peu près au litre. Donc pour 15 kilos ou 15 euros, vous allez faire environ 420 kilomètres. Ce qui est énorme, parce que si vous résumez, si vous mettez 15 euros dans votre véhicule aujourd'hui, vous allez faire à peine 200 kilomètres, c'est-à-dire un peu moins de la moitié.
Oui, alors effectivement, le prix, c'est un gros argument. Elisabeth, on sait expliquer aujourd'hui pourquoi les prix se sont envolés à la pompe comme ça?
Alors déjà, on sait qu'ils restent élevés. Hein, en moyenne, 1,48€ le litre de gazole, 1,47€ le litre de Super 95 et 1,54€ le litre de Samplon 98. Et d'abord, il faut essayer de comprendre à quoi correspond ce prix de l'essence. On paye réellement, par exemple sur un plein de 70 euros, on a 20 euros de pétrole brut, 3 euros de raffinage, 5 euros environ de frais de transport, de distribution. Et là, c'est là où ça pêche, c'est qu'il y a 40 euros de taxes. Et le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas revenir sur cette hausse récente des taxes décidée, pourquoi, dans le cadre de cette transition écologique.
Et juste pour avoir une petite idée, on payait combien l'essence il y a, je sais pas, 15 ans par exemple?
Il faut prendre en compte l'inflation, évidemment. Il faut savoir que 1 franc de 1973, ça équivaut à quelques dixièmes de centimes près à 1 euro là en 2018. En 1970, avant le premier choc pétrolier, le litre d'essence était de 1 franc 10. c'est-à-dire à environ 1,26€ là en 2018. En 1973, le litre passe à 1,70€, donc à 1,65€ en 2018. Mais effectivement, par rapport aux années 92, 93, 94, les prix flambent d'environ 35 centimes. On a une hausse de 33% par rapport aux années 94-93. Le coach ?
Non, mais là, moi, c'est juste une réflexion un peu macroéconomique. On voit que la France ne supporte plus maintenant le moindre supplément fiscal qu'on lui impose. Et moi, ce qui me choque en tant que citoyen, c'est d'abord de dire, est-ce que l'argent qu'on donne à l'État aujourd'hui, est-ce qu'il est bien utilisé ? C'est ça le vrai sujet. Qu'on ne peut pas augmenter les impôts quand on sait. Moi, j'ai toujours gardé entre la gorge cette histoire d'écotaxe, de portique qu'on va se taper à vie sur nos autoroutes qui n'ont jamais marché et qui ont coûté 3 milliards d'euros de notre argent.
Qu'on a installé et qu'on a dû démonter.
Et qu'on démonte même que partiellement et qui nous a coûté à nous, Français, de notre poche, 3 milliards d'euros. Donc moi, le premier sujet, à mon sens, c'est pas d'augmenter les impôts, mais de s'assurer que l'argent qu'on donne à l'État soit utilisé de manière efficace, efficiente. On calcule le ROI et après, quand on a fait ce travail-là, éventuellement, on peut passer à une hausse supplémentaire, mais pas avant ça.
Serge Lamouli, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je rajoute quelque chose parce que, d'une manière fiscale, alors je rebondis sur ce que vous disiez. L'État favorise aujourd'hui la filière GNV. Comment elle le favorise ? Du point de vue fiscal, justement, parce qu'ils ont gelé donc la TICPE liée au gaz. Ça veut dire que la TICPE...
C'est une taxe, une autre taxe.
C'est la TICPE, effectivement, de produits énergétiques, mais... Pour le gaz naturel, cette taxe a été gelée pendant 5 ans par le gouvernement, donc de 2018 à 2022, et elle est minime, elle est de 7 centimes du kilo de gaz, cette taxe. Alors que vous preniez à comparaison, aujourd'hui on est à 65 centimes pour l'essence, 53 centimes pour le gasoil. Donc là, ce qui favorise aujourd'hui le GNV, c'est fiscalement, il y a un gros intérêt, vous payez en fin de compte 40-50% moins cher, donc au niveau des taxes, le gaz naturel, et il faut rajouter aussi que le gaz naturel par rapport donc au carburant comme l'essence et le diesel, c'est un carburant propre, plus propre, bientôt renouvelable avec le biogaz.
Bonne alternative coût-pollution, évidemment.
Bien sûr, puisqu'en fin de compte, le gaz naturel vous allez diminuer de près de 15% les émissions de CO2. Et vous allez surtout éliminer tout ce qui est particules fines et NOx, donc l'oxyde d'azote. Et ce sont ces polluants qui sont nocifs pour la santé. Et ce sont surtout ces polluants qu'il faut diminuer dans les zones urbaines. Et c'est pour ça que je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent, le GNV en urbain est une réelle solution accessible aujourd'hui, économique. Et c'est ce que nous y employons.
Oui, parce que pour l'instant, c'est dans le sud de la France, mais vous avez évidemment des projets de développement. On va en parler dans un instant. On reste ensemble. On continue à parler des alternatives à l'essence et au diesel.
Il est 13h20.
Europe 1.
Faire une copie de l'essence, mais en version naturelle. Oui, c'est possible. Vous allez le voir et ça peut même remplacer votre plein. À tout de suite.
La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec aujourd'hui cette question. Quelles sont les solutions pour diminuer notre consommation d'essence et l'usage de nos voitures ? Vous êtes nombreux à réagir et à partager vos bons plans, vos petites astuces du quotidien. Au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël Jean-Xavier nous dit « Il faut rationaliser ses trajets et adopter une éco-conduite, avoir une conduite souple basée sur l'anticipation. »
Eh oui, beaucoup de témoignages On va les donner d'ici quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes avec Elisabeth Assayag, avec notre coach Augustin Paluel-Marmont. On regarde les solutions pour diminuer votre consommation d'essence et l'usage de la voiture. Julien Honard est avec nous, président fondateur de Klaxit. Serge Lamouli, directeur commercial de Proviridis, les véhicules notamment au GNV et les stations qui vont avec. Et puis, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être. L'isobutène, c'est peut-être en tout cas une des alternatives qui va faire rouler votre voiture demain. Bonjour Marc Delcourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Global Bioenergy. Alors, la base de ce produit, c'est le sucre, ou plutôt les sucres et les déchets de sucre.
Voilà, c'est ça. C'est les résidus de l'industrie de la betterave. Et notre procédé permet de transformer ces résidus en cette molécule, l'isobutène, qui est un hydrocarbure qu'on peut facilement transformer en essence, mais aussi en kérosène et en certains produits de chimie, en cosmétiques même. Et donc c'est une sorte de bioraffinerie, si on veut. C'est une raffinerie, mais pas à base de pétrole, à base de résidus de l'industrie de la betterave.
Donc vous avez inventé quelque chose qui ressemble, si je simplifie au maximum, à une copie conforme mais végétale du pétrole, de l'essence.
Exactement, c'est-à-dire qu'on fait de la vraie essence, qu'on peut mélanger sans limite de proportion dans l'essence fossile, ce qui n'est pas le cas du biocarburant de référence qui est l'éthanol. L'éthanol, on peut en mettre jusqu'à 10%, et ensuite, si on veut aller plus haut, il faut un véhicule spécial, flex fuel. Dans notre cas, donc c'est de la vraie essence qu'on peut mélanger sans limite de proportion et qu'on peut mettre dans n'importe quel véhicule.
Donc, je peux mettre tout de suite votre produit, là, par exemple, dans ma voiture, elle va rouler comme si j'avais fait un plein.
Dans mon
absolument,
avion.
Absolument. Donc, on a fait des essais. Alors, aujourd'hui, on en est au stade du démonstrateur industriel. C'est un projet qui a démarré à partir d'un projet papier il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Et on a développé le procédé au niveau du laboratoire. Puis, on a commencé à le mettre à l'échelle. On a construit un pilote, puis un démonstrateur. Un démonstrateur, c'est une usine modèle réduit. Qu'on a installé en Allemagne. Et donc, elle fonctionne. On a produit des lots d'essence et on a fait rouler une première voiture cette année avec notre partenaire Audi sur le circuit de Montlhéry. Donc, elle contenait, cette voiture, 34% de notre essence renouvelable et 66% d'essence fossile. Et donc, cette voiture, c'est la première fois qu'on a pu mettre un biocarburant à ce titre, donc dans cette proportion, au-delà des 10% de l'éthanol, dans une voiture normale, c'est-à-dire qui n'a subi aucune modification, tout en respectant les normes européennes. Donc il y a une norme sur l'essence, et on était évidemment dedans.
Deux questions, on est obligé de garder une partie d'énergie, enfin d'essence fossile, comme vous dites, ou on peut imaginer avoir du 100% végétal demain?
Alors en fait, la molécule qu'on produit, c'est le standard de l'essence, c'est-à-dire que c'est de l'octane 100. C'est la molécule qu'on a utilisée historiquement pour définir les indices d'octane. On peut l'utiliser pure. Maintenant, la norme européenne de l'essence dit que l'essence, ça doit être un cocktail. Donc, techniquement, on pourrait l'utiliser pure. En réalité, l'idée...
Et ça roulerait, évidemment.
Et ça roulerait, absolument. Et donc, avec notre partenaire Audi, on a fait des tests moteurs là-dessus, donc pour vérifier qu'on pouvait bien l'utiliser pure. Mais ce n'est pas vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est les biocarburants, aujourd'hui, c'est 7% de l'énergie qui est utilisée sur les routes. L'enjeu, c'est de mettre un 8e%, puis un 9e, puis un 10e, puis un 11e. Et pour ça, les biocarburants qui existent aujourd'hui ne conviennent pas. C'est-à-dire que dans le cas de l'éthanol, il y a ce qui s'appelle un mur de mélange. On peut en mettre pas plus d'une certaine quantité dans le mélange. Dans notre cas, on peut aller bien au-delà de ce mur de mélange.
Alors, j'ai une question pour vous. Jocelyne nous dit, je roule à l'éthanol, je paye entre 60 et 75 centimes le litre, selon les régions. J'utilise aussi beaucoup le bus, mais elle nous explique surtout que, elle, ça fait 10 ans qu'elle met de l'éthanol et qu'elle fait le plein total dans sa voiture.
Alors, ça doit être de l'E85 qu'elle utilise, donc pas de l'éthanol pur, mais de l'éthanol 85% avec 15% d'essence. Et alors, il y a deux solutions. Soit Jocelyne a un véhicule flexfuel, donc c'est une très petite fraction des véhicules en France sont équipés d'un module qui permet d'utiliser de l'éthanol à haute proportion ou de l'essence. Donc, soit elle a ça, soit c'est une aventurière de la route, et auquel cas, je la félicite. Mais je lui recommande de faire attention quand même, parce qu'elle n'est pas dans les clous de ce qui doit se faire, et elle va peut-être avoir des soucis à gérer avec son moteur.
Un mot du coach ?
Oui, c'est une innovation mondiale, ou il y a d'autres pays, d'autres boîtes qui bossent sur cette techno-là, ou si vous êtes les seuls ?
Alors non, c'est une innovation qu'on a faite nous, donc on est deux partenaires à l'origine de la société. Et donc c'est vraiment une technologie propriétaire, donc c'est notre technologie et il n'y a personne au monde qui a une technologie identique.
C'est bien, Cocorico, hein. Ça vous fait plaisir.
Mais si c'est fait en Allemagne, hein. Vive l'Europe.
Oui, le partenaire c'est Audi, hein, je vous le rappelle.
Nous, hein. Ouais, mais la société est basée en France, donc on est une soixantaine de personnes en France, on a notre démonstrateur en Allemagne et maintenant notre prochaine frontière c'est l'usine de pleine taille. Une vraie usine donc qui fera 50 000 tonnes et elle sera en France.
Et qui finance en deux mots ce projet ?
Alors c'est une joint venture entre nous et Cristal Union.
C'est votre partenaire dans les sucres.
Voilà, ouais. Cristal Union c'est numéro 2 du sucre en France. S'il est connu sous la marque Dadi. Et donc, comme tous les sucriers européens, il y a eu la fin des quotas de sucre l'an dernier. Donc il y a beaucoup de sucre disponible en Europe et il y a la nécessité de trouver des nouveaux débouchés. Dans l'essence, dans le kérosène et dans d'autres produits, la cosmétique notamment.
Et on est là pour en parler, bien sûr. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
On vous attend, 39-21, venez nous dire si vous êtes prêts à ce changement et quelles sont les options qui s'offrent à vous. On vous attend au 39-21 et aussi sur Twitter. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Je voulais que vous alliez jusqu'à 17h. Écoutez, allons-y. On est sur la route. Aujourd'hui, on parle des solutions pour diminuer la consommation d'essence et l'usage de la voiture. J'ai l'impression que ça va durer parce qu'il y a beaucoup de messages. Vous êtes très nombreux à partager vos bons plans et vos astuces du quotidien. Hashtag Europe 1 sur Twitter et le 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute.
Avec nos invités, Julien Honard, président fondateur de Klaxit, Serge Lamouli, directeur commercial de Proviridis et Marc Delcourt, directeur directeur général de Global Bioenergy. Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach Augustin Paluel-Marmont. Que va-t-on mettre dans nos voitures pour remplacer l'essence et comment faisons-nous en ce moment pour faire diminuer la facture? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. On a Martial qui est en ligne avec nous. Bonjour Martial.
Bonjour.
Vous êtes au Petit Landau, c'est ça?
Absolument, oui.
Alors vous dites, la solution, c'est l'hydrogène, c'est le présent et c'est le futur.
Ah oui, ben c'est pas le futur, c'est le présent, puisque tous les véhicules existent, hein, vélo, scooter, voiture, camion, bateau, train, et donc et même l'aviation commence à développer l'hydrogène. Donc ce qu'il y a, c'est que l'hydrogène, c'est, on va prendre une image toute simple, hein, c'est quand il pleut, il y a sur 3 gouttes d'eau, il y a 2 gouttes d'eau d'hydrogène et donc 1 goutte d'eau d'oxygène. Hein, c'est une image bien évidemment. Et donc c'est absolument pas polluant puisque ça ne rejette que de l'eau. Mm-hmm. Et donc, M. Hulot avait commencé quelque chose là-dessus. On ne sait pas où ça en est maintenant, mais ce qu'il faudrait, c'est développer au maximum en France, puisque les Allemands s'y mettent, les Anglais s'y sont mis, au Japon ça s'y met aussi. C'est-à-dire développer donc des stations où on peut recharger en hydrogène les voitures.
Eh ben, ne bougez pas, Martial, on va vous répondre. Serge Lamouly, l'hydrogène, c'est une des solutions que vous proposez.
Bien sûr, c'est ce qu'on va préconiser. Alors aujourd'hui, l'hydrogène, il faut mettre un petit bémol, c'est effectivement, on a raison de dire que c'est d'actualité, mais aussi c'est le futur. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène coûte aujourd'hui assez cher à produire, à stocker, et c'est assez réservé à certains types de véhicules. Donc effectivement, aujourd'hui, ça marche, on en a. Dans nos stations, nous en délivrerons à partir de fin de l'année prochaine. Mais voilà, c'est aussi une alternative plus du futur ou du moyen terme que du court terme.
Alors, oui, Marc Delcourt.
Ouais, moi je vais bien rajouter un mot. Ça, en fait, si on regarde bien les solutions qui existent, il y en a 4. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'énergie, elle est essentiellement fossile. Et il y a 4 types d'énergie qu'on peut intégrer. L'électrique, qui représente moins de 1% aujourd'hui. Les biocarburants, environ 7%. L'hydrogène et le gaz naturel compressé, dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, si on regarde, en fait, globalement, les biocarburants ont une position particulière parce qu'ils ne demandent pas de nouvelles infrastructures. On les dilue dans l'essence, on les dilue dans le diesel. Il n'y a pas besoin d'investir des milliards ou des dizaines de milliards en infrastructures nouvelles, des pompes, des circuits de distribution. Les autres ont leurs mérites, ont leurs avantages. Pour certaines, elles sont moins chères au kilo. Mais par contre, il y a besoin d'investir lourdement dans ces réseaux. Et donc, ça met une certaine barrière à la diffusion de ces technologies.
On a un autre témoignage de Raphaël de Versailles qui nous dit « Je fais du covoiturage pour me rendre dans les villes du département ». Ça veut dire que le mouvement est vraiment en train de prendre, d'infuser dans la société, Julien Honard ?
Oui, complètement. En fait, on a démarré une expérimentation avec la région Île-de-France qui finançait à hauteur de 2 euros chaque trajet réalisé en covoiturage. Et en fait, sur les 9 premiers mois de l'expérimentation, on a multiplié par 6 les volumes de trajets qu'on effectuait en covoiturage en Île-de-France. Donc en fait, on voit que quand on envoie un signal prix aux passagers, et ben finalement, il va arrêter de prendre sa voiture et covoiturer. Mais il faut vraiment envoyer ce signal. En fait, subventionner le covoiturage comme on le fait pour le transport public. Hein, le covoiturage, ce n'est autre qu'un mini-transport public pour que vraiment la solution se massifie, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années.
D'un mot, Elisabeth, on a parlé de l'électrique. C'est vrai que c'est quelque chose qui a le vent en poupe. On a essayé hein, déjà il y a quelques années.
Est-ce que si je vous dis Mia, ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est Golan Royal.
Tous là autour de la table. Eh bien, Mia, mais oui, souvenez-vous, en région Poitou-Charentes, elle a été produite entre 2011 et 2014. Et d'ailleurs, en 2010... Vous avez raison, Augustin. Ségolène Royal avait même innové en faisant entrer au capital de Mia la région Poitou-Charentes, ce qu'aucune collectivité locale n'avait jusqu'alors osé faire.
Je crois que ça a coûté très cher la région après.
Ça a coûté très cher.
Mais on y a pensé. On y revient. Je vais vous lire quelques messages parce que malheureusement, on touche au terme de cette émission. Jean-Michel nous dit « J'habite à la campagne, j'aimerais passer à l'hybride GPL, mais on m'a prévenu que j'aurais un malus de 4000 euros. Quelle cohérence !» Guénolé est à Plouerden. Il nous dit « Les carburants que nous consommons sont transportés sur d'immenses porte-conteneurs qui polluent énormément. Il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Alain a une question pour vous. Quelle est la différence entre le GPL d'aujourd'hui et le GNV de demain? Peut-être en un mot, Serge.
Rapidement, le GNV, c'est du gaz naturel pour véhicule. C'est du gaz issu, donc c'est fossile. C'est le gaz que vous trouvez chez vous si vous avez une cuisinière. Donc c'est du gaz réseau. Alors que le GPL, c'est du gaz pétrole liquéfié, voilà, qui est un mélange de butane-propane qui est complètement différent.
Mais moins cher. Bien moins cher.
Et on a Mathieu qui dit « Je vais acheter un véhicule très prochainement, je fais 45 000 km par an, je roule actuellement au diesel, j'aimerais passer au biocarburant et acheter un boîtier. Biomotors doit s'adapter à l'essence, mais d'ici combien de temps ?» C'est une bonne question, combien de temps avant que tout soit véritablement efficace et efficient? Vous dites quoi? 5 ans, 10 ans?
Moi, je dis que ce sera pas forcément nécessaire si notre solution se développe. Donc, si jamais l'essence renouvelable arrive, il n'y a plus besoin de boîtier, il n'y a plus besoin de changer les infrastructures, les moteurs.
Dernier message, Anissa.
Alors, on a Hervé qui met de l'électricité. Donc, 2 euros permet de faire 100 km alors qu'il faut 9 euros d'essence pour faire 100 km. Et puis, on a Peter qui nous dit que pouvez-vous faire lorsque vous gagnez 1250 euros et que vous devez faire 60 km par jour et que vous n'avez pas de transport en commun. Bon, on lui conseille Klaxit, par exemple.
Exactement, c'est une très bonne solution. Merci à tous d'être venus nous parler de ces solutions pour demain. Et même pour aujourd'hui.
Il est 13h38.
Europe 1.
Ils mettent en boîte 1000 tonnes de thé par an, sont présents dans 66 pays. Daman Frères et l'entreprise qui va bien, merci.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1. Et vous le savez, avec Raphaël Duchemin, Europe 1 a un temps d'avance. Et bien là, on avance l'heure du tea time.
Et
Raphaël.
Oui, l'entreprise dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Daman Frères. Bonjour Flora Jumeau-Lafont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de cette belle maison que votre grand-père a repris dans les années 50. La société existait déjà avant. Hein. Si on rembobine, en fait, l'histoire commence en 1692. Mais c'est vraiment, vraiment en 1925 que les frères Daman vont poser les bases. On peut le dire comme ça.
Exactement. Ils vont commencer à vendre du thé aux Français. Ça intéressait pas forcément beaucoup, mais en important un produit de qualité, en prenant soin, de choisir, de bien sélectionner les feuilles qu'ils proposaient. Et puis mon grand-père a croisé leur route, s'est pris de passion pour le produit, a repris l'entreprise dans les années 50.
Oui, il a appris le métier avec eux.
Exactement.
Vous, je crois que c'est un hasard si vous arrivez là, parce que le groupe est familial,
oui.
L'entreprise est familiale, elle l'est toujours d'ailleurs, oui. Il y a le cousin, il y a la cousine, oui. Il y a l'oncle. Vous n'aviez pas du tout prévu de rejoindre le groupe justement?
Je ne pensais pas au départ, un jour certainement, je ne pensais pas au départ. Et puis voilà, il y a une quinzaine d'années, je rentrais d'études à Londres, mon père m'a dit demain on a besoin de quelqu'un sur la route, tu as une camionnette qui t'attend, les échantillons sont chargés, va voir les clients si ça t'intéresse. On était au mois d'août, j'ai commencé à faire un petit tour. Il n'y avait pas de GPS, rien à l'époque. J'étais avec mes cartes routières et j'ai été rencontrer les clients comme ça sur le terrain directement. Le produit, je le connaissais depuis toujours.
Évidemment.
On a baigné dedans, évidemment, depuis tout petit. Et ça s'est passé comme ça.
Alors, votre site de production, il est à Dreux. Vous y faites quoi exactement? Parce que le thé, forcément, il vient d'ailleurs.
Forcément, il vient d'ailleurs. Donc, on va sourcer dans les pays d'origine. On va importer. On va dépoussiérer le thé, on va le nettoyer, enlever tous les petits corps étrangers, des petits morceaux, des petits cailloux, etc. On va trier les fleurs qu'on va rajouter à nos mélanges. On va les trier manuellement aujourd'hui encore à Dreux. Et puis on va le parfumer. Tout ça se fait chez nous. On va ensuite le conditionner en boîte, en sachet et en coffret. On est les seuls à faire ça. Ça n'existe plus ou pratiquement plus, en tout cas en France, d'entreprises dans le thé qui vont avoir tout ce savoir-faire sous un même toit et qui vont le faire et le contrôler directement.
Question de mon ami Thomas Caillé qui est de l'autre côté de la vitre et qui nous écoute et il me demande, c'est du thé bio ?
Alors, le thé bio, c'est une grande question. Vous avez raison de poser cette question-là. Tous les thés qui rentrent chez Daman sont analysés. On n'est pas obligé de le faire. On le fait depuis des années. C'est des gros budgets. Et en analysant tous les thés, on se rend compte qu'on ne peut pas être conforme aujourd'hui sur la longueur avec la législation bio. On analyse ce qui se fait sur le marché, on analyse ce qui se fait à l'international. Des thés sont vendus sous label bio et ne sont pas forcément bio. Il y a des dérogations qui sont faites. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas envie de vendre un produit qui soit labellisé bio, mais qui ne soit pas complètement.
Votre marché, je crois que c'est la France, hein, marché historique.
Oui.
Il y a beaucoup de familles françaises, finalement, dans ce marché du thé, c'est étonnant.
Des familles dans
des
le marché
groupes, des...
Oui, oui. Enfin, il y a des entreprises françaises. Je pense que depuis toujours, le thé est associé à la gastronomie. Enfin, ça fait partie du goût, du plaisir, etc.
Comme le vin, exactement.
Et du coup, à l'international notamment, on nous reconnaît ce savoir-faire de parfumeur, en tout cas chez nous. Donc oui, il y a des groupes français, puis des marques de thé se créent un peu tous les jours. C'est le produit avec un marché en forte croissance.
On va parler des produits à venir. J'ai deux messages qui disent j'ai découvert un thé au Maroc super convoité là-haut. Il s'appelle le thé Aatik, un thé composé de fleurs d'oranger avec de la menthe marocaine et un toucher de miel. Je peux vous dire, il est extra. Je suppose que vous connaissez.
Super. Non, on a aussi des mélanges. On a pas mal de mélanges. On crée des mélanges chaque année, une vingtaine, une trentaine, en fonction de nos envies, en fonction voilà des dégustations que nous faisons quotidiennement. On a des mélanges avec de la fleur d'oranger, bien sûr, avec du miel, etc. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup.
Et on a toujours sur le hashtag Europe 1, Ultra Vermouth qui nous dit « La Turquie est l'un des pays qui consomme le plus de thé noir. Ça fait partie du patrimoine turc. Je bois 3 verres par jour, c'est délicieux, je vous le conseille. Vous pouvez trouver ces thés. » Alors, il dit aligné en barois. Il y a vraiment des typicités hein, dans le thé.
Oui, enfin après, on est sur, on a 200 produits nous qui sont des thés parfumés, 200 produits qui sont des thés classiques dans notre catalogue. Donc ça fait 400 produits. On est toujours à la recherche de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Les infusions aussi sont un marché en énorme progression qu'on va aromatiser aussi chez nous.
Le coach ?
Non, déjà c'est une entreprise familiale et je pense qu'il n'y en a pas tant que ça et c'est quand même une très belle histoire avec tous les sujets de transmission, de formation. Donc ça c'est très très beau et je trouve que moi, ce qui me fascine, c'est que je connaissais sans bien connaître et je trouve que dans tous les secteurs, notamment dans la gastronomie, on arrive à avoir des succès comme Kousmiti, mais qui ne sont pas, j'imagine, des concurrents qui permettent aussi d'agiter un peu le marché et de voir que vous rayonnez dans le monde entier. C'est exceptionnel. Et là, on reniflait un peu une gelée de thé qui paraissait absolument incroyable, que je ne connaissais pas du tout comme produit. Ça ressemble à du miel. Et je vous invite à aller, je vais la déguster juste après en sortant de studio.
Oui.
Et ça a l'air vraiment exceptionnel. En tout cas, vraiment bravo.
Ouais,
et vos produits, je précise, ils sont avec nous dans le studio. On peut les voir sur europe1.fr avec notamment le calendrier de l'Avent. Ça fait 6 ans, hein, c'est ça que vous
ça
le faites?
Ça fait 6 ans qu'on fait un calendrier de l'Avent. On change l'assortiment chaque année parce que voilà, c'est un super produit pour présenter des nouvelles saveurs en fait aux consommateurs qu'ils découvrent. Il coûte 22 euros.
Très beau cadeau pour
pas
grand chose.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un autre qui arrive après.
Alors là, dans les cartons qu'on est en train de fabriquer en ce moment, de conditionner, nous sortons pour la première fois le calendrier de l'après.
C'est bon pour la détox.
Au mois de janvier,
fêtes.
Alors on a accès à ces tisanes, mais tisanes parfumées, des mélanges un petit peu voilà, plus légers après les fêtes. Et on sort ça à partir du 2 janvier.
Merci d'être venu nous parler de cette très belle entreprise qui est Daman Frères. Merci d'avoir été avec nous, Flora Jumeau-Lafont.
Il est 13h47.
Europe 1. Vous êtes peut-être fraîchement séparés, se pose le problème de la garde alternée. Coût vous aide, c'est la solution et c'est sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec de nombreuses idées, de nombreuses solutions chaque jour avant 14h. Raphaël Duchemin, celle d'aujourd'hui va soulager bien des parents.
Vous êtes divorcé, vous êtes parent, vous avez une urgence à régler. Il arrive que on n'ait pas tout sous la main quand on voit ses enfants une semaine sur deux. Alors, eh bien, nous avons la solution. Ça s'appelle Coût. Elisabeth Sayag, c'est une application qui aide les parents séparés à s'organiser.
Et oui, c'est une solution simple pour les 18%. Ils sont 18% de parents qui ont la garde alternée de leurs enfants en France. Cette application, elle est gratuite, elle est dédiée aux parents séparés qui ont la garde alternée, c'est-à-dire une semaine chez papa, une semaine chez maman. Cela leur permet de s'organiser sereinement avec par exemple un agenda partagé, un suivi du budget pour faire les comptes, pour mieux répartir les dépenses. Pour organiser aussi les vacances en quelques clics et de garder un œil sur le quotidien et l'organisation de la famille en temps réel.
Nous sommes avec le fondateur de Coût, on dit bien Coût. Bonjour Anthony Amouyal.
Bonjour.
C'est votre histoire qui vous a donné envie de monter cette solution?
Alors presque, il se trouve que je ne suis pas séparé, je suis marié. En revanche, je suis enfant de parents séparés et j'ai vécu la séparation finalement à travers celle de mes parents. Et à la naissance de ma fille, je crois que j'ai vu les choses peut-être un petit peu différemment parce qu'il a fallu m'organiser avec ma femme aussi dans la parentalité. Et j'ai compris au fond que peut-être que les problèmes que les parents séparés rencontraient étaient plus dus à la surcouche d'affect qu'on venait mettre sur des problèmes du quotidien qui sont pourtant bien rationnels et qu'on pouvait les aider dans ce sens-là.
C'est quoi la surcouche d'affect, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... il peut y avoir, suite à la séparation, des ressentiments, du ressenti... des choses qui font qu'il y a un peu de rancœur, il y a parfois des difficultés tout simplement à s'entendre, à échanger, à communiquer. Et peut-être qu'on peut aider les parents, parce que je crois qu'on partage quand même tous le souhait de préserver nos enfants, et finalement préserver ses enfants, ça commence par se préserver soi-même. Et se préserver soi-même, c'est peut-être essayer d'éviter l'appréhension, d'éviter la boule au ventre avant d'échanger avec son ex-conjoint sur tous ces sujets, et notamment sur les finances.
Qui sont des sujets concrets. Alors on sait tous que la gestion du quotidien avec les enfants, c'est pas toujours simple hein, en cas de divorce, vous venez de nous le décrire. Et alors avec votre appli, concrètement, comment ça marche par exemple, je ne sais pas moi, pour les dépenses, puisque c'est souvent un sujet de conflit.
Ouais, comment ça marche? En fait, déjà, il y a un premier parent qui télécharge l'application, qui a la possibilité d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités tout seul. Et puis, une fois qu'il a commencé à paramétrer, il va inviter l'autre parent. Dans le cadre des dépenses, vous allez pouvoir créer une dépense en indiquant le titre, en choisissant le parent qui est responsable de la dépense, qui est le payeur finalement, en choisissant aussi les enfants qui sont concernés par cette dépense.
Par exemple, loisirs, je ne sais pas, des loisirs.
Par exemple, loisirs, vêtements. Mais par exemple, ça peut être un abonnement, ça peut être l'école privée, ça peut être un cours de sport. Et justement, quand on s'entend, par exemple, pour partager le cours de sport et que ça ne se paye pas d'un coup, mais que c'est un paiement tous les trois mois, un des problèmes que peuvent rencontrer des parents séparés, c'est qu'un accord qui vaut un instant T, quatre mois plus tard, en fonction de ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément évident. Ben là, dans l'application, on va l'automatiser. Donc si on a choisi de faire 50-50 sur une dépense, à un instant T, 4 mois plus tard, automatiquement, on va régénérer cette dépense à 50-50.
Augustin ?
C'est vrai que je trouve que c'est une super approche dans le sens où dans le monde de l'entreprise, évidemment, la tech a révolutionné la façon dont on bossait, mais que ce soit des familles séparées ou même des familles nombreuses, moi, je vois à quel point on a des difficultés rien que de partager des agendas avec des conjoints, avec des enfants, d'avoir, il n'y a pas d'outil effectivement tech collaboratif qui a envahi la façon dont les familles vivent, en tout cas pour faciliter la vie de famille, séparée ou pas. Et je trouve que c'est, moi, j'avais jamais eu ce ressenti-là. Et la tech doit nous aider à mieux gérer, effectivement, nos familles au quotidien. C'est vraiment une super idée. Hein.
Merci beaucoup. Et en fait, ça va vraiment dans ce sens-là. Parce que il existe des outils pour avoir un agenda partagé. Il existe des outils pour partager des documents.
On fait dans l'entreprise, hein. Mais moi, j'ai toujours pas d'agenda partagé avec ma femme.
Mais finalement, au sein de la famille, il y a rien. Et surtout, c'est pas intégré. Et donc, l'idée, là, c'est de tout regrouper et de tout intégrer. Depuis la création d'un événement, vous pouvez créer la dépense associée. La facture va se ranger automatiquement dans votre centre administratif. Et donc, l'idée, c'est de faciliter vraiment la vie des parents.
Combien de personnes ont téléchargé
Écoutez, en un peu plus de 4 mois, on a 6000 utilisateurs. Donc, on est vraiment, vraiment très contents. Et on a la chance de pouvoir compter sur nos utilisateurs, justement, pour nous remonter énormément d'informations.
Et aider à affiner le service.
Et nous aider à affiner le service et à proposer de grosses évolutions à venir. Et
ça permet d'instaurer la paix au sein du foyer.
Ça s'appelle COOT, C-O-O-T.
Exactement. Ce sont les initiales évidemment. De To Come Out On Top, ce qui signifie s'en sortir par le haut.
Exactement. Et c'est ce que vous essayez de faire avec eux. C'est très bien. Merci Anthony.
Merci beaucoup.
À Mouyal d'avoir été avec nous. Merci à Augustin qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth, on se dit à lundi.
À lundi, cher Raphaël.
Nous irons ensemble au petit coin. Parce que vous allez voir que les Français sont en train de révolutionner le secteur. Eh oui.
Eh ben on a hâte à lundi à partir de 13h sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile sur Europe 1, vous avez rendez-vous comme chaque jour avec Christophe Ondelat qui aujourd'hui nous ramène, souvenez-vous, le 24 août 1977, trois hippies, membres de la communauté de Roche-Besse en Ardèche, attaquent une agence du Crédit Agricole. Dans leur fuite, ils tuent un gendarme et deux automobilistes. Eh bien à 14h aujourd'hui, Christophe Ondelat va vous raconter l'affaire Pierre Conti. C'est à suivre sur Europe 1.